Premier sujet ce matin, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, qui sera officiellement blâmé par ses pairs, par les autres députés aujourd'hui.
Voilà, ça va se passer tout de suite après la période des questions ce matin. Alors, les députés, la majorité, en fait, tous les députés vont voter en faveur du blâme parce que François Legault a accepté le rapport puis il a dit, moi, je vais demander à mes députés d'appuyer le rapport, donc d'appuyer le blâme contre leurs propres collègues. Pierre Fitzgibbon.
Qui a dit hier, lui, qu'il n'avait rien à se reprocher.
Oui, attention.
Il a dit qu'il ne le ferait plus, là.
Oui, c'est
ça. C'était une erreur, mais qu'il n'a pas tiré un avantage.
Et voilà, il a dit, je vais t'en parler dans un instant sur les leçons qu'il tire de ça, mais je veux juste, avant d'aller là, Paul, rappeler que c'est la première fois qu'un ministre va être blâmé, sanctionné pour avoir contrevenu au code d'éthique de l'Assemblée nationale adopté en 2010. Pierre Paradis avait fait l'objet d'un blâme dans le rapport du commissaire à l'éthique, mais Philippe Couillard avait dit aux troupes libérales, on vote contre le rapport. Fait que finalement, Paradis n'avait pas été blâmé. Fait que ça va être la première fois qu'un ministre... Puis hier, Fitzgibbon, là, il l'a dit, ça. Moi, je suis allé lire son texte, puis après ça, je l'ai écouté. Hier soir, je suis allé sur le site de l'Assemblée, puis j'ai écouté son discours. Puis écoute, Fitzgibbon, il dit hier... Il faut noter que dans l'histoire récente du Québec, je suis le seul ministre de l'économie, en fait le seul ministre point, qui recevra un blâme formel de l'Assemblée nationale. M'a dire une affaire, ça s'appelle ne pas se défiler. Tu sais, tu dis toi-même, tu te lèves, tu dis, regardez là, moi je vais être le premier. J'y lève mon chapeau, Paul. Parce qu'il le fait avec beaucoup de dignité. Puis il ne s'est pas défilé, puis il le fait avec franchise. Puis à un moment donné, dans son discours, il dit... Il m'est difficile aujourd'hui de vivre avec ce blâme. Puis tu sens là, que ça vient du fond, tu comprends?
Mm-hmm.
Le gars, là, il est blessé. T'sais, c'est pas un grand démonstratif, Fitzgibbon, là, je veux dire, l'émotion du banquier, là. Mais tu sens que dans son non-verbal, il est blessé. Puis tu sens le poids de ce blâme. Tu sens un peu d'humiliation, Paul. Tu sens un petit peu d'humiliation dans ses propos. Parce que tu sais, c'est un gars fier, Fitzgibbon. Fait que sur le fond, il reconnaît dans son discours d'hier qu'il n'aurait pas dû rencontrer son ami et ex-lobbyiste, son ami et lobbyiste, dis-je bien, Luc Laperrière, pour discuter de trois dossiers, alors qu'il était en affaires avec Laperrière pour vendre à Laperrière ses parts. Parce que Fitzgibbon avait des parts dans l'entreprise Move Protein. Fait qu'au moment où il rencontre Laperrière pour discuter de dossiers que Laperrière a comme lobbyiste, il vend à Laperrière ses actions dans Move Protein. C'est ça l'apparence du conflit d'intérêts, tu comprends? Je t'aide dans tes dossiers, je te rencontre pour tes dossiers, mais toi, tu m'achètes mes actions. C'est ça l'apparence de conflit d'intérêts. Puis c'est pour ça qu'il a été blâmé, Fitzgibbon, et c'est pour ça qu'à mon avis, elle avait raison de le blâmer. La commissaire, mm-hmm. Paul. Moi, je l'appuie, le blâme. Moi, je pense que tu peux pas mêler amitié et dossier ministériel. Cela étant dit, et là, j'en reviens à ton point, Fitzgibbon, hier, il a déclaré qu'il avait compris le message. Puis il dit, dans le futur, je vais être plus prudent. Je parlerai plus à des lobbyistes avec qui je suis en affaires. Je vais parler aux dirigeants des entreprises directement quand ils viennent me soumettre le projet.
Mais ça, c'est le... Je dirais... Quelqu'un qui arrive du monde des affaires, là,
ouais.
qui débarque en politique, là,
ouais.
de s'ajuster à ces pratiques-là de conflits d'intérêts potentiels, puis tu sais, c'est tout ça, puis j'ai tout le droit. Tu sais, je me souviens, c'était pas toujours des cas de conflits d'intérêts ou d'apparence de conflits d'intérêts, mais des fois, tu sais, Fitzgibbon, là, il vient du monde des affaires. S'il pose une question, il te répond.
La bébête à Fitzgibbon, comme il s'est déjà qualifié lui-même. Et c'est là que ça devient fascinant, Paul. Parce qu'hier, dans son discours, on découvre comment il opère comme ministre. Parce qu'il explique les circonstances puis il présente sa défense. C'est ça qu'il fait hier. Parce que selon le code d'éthique, avant d'être blâmé, tu as le droit de présenter ta défense. Et là, donc, il lève le voile sur sa manière de fonctionner. Il dit, hier, il dit, « J'ai tenu plus de 2000 rencontres depuis mes débuts comme ministre. 2000 rencontres avec des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise qui viennent me présenter le projet puis tout ça. » Écoute, Paul, compte ça comme tu voudras, là. 2000 rencontres, plus de 2000 rencontres, ça veut dire 3 rencontres par jour en moyenne depuis qu'il est ministre. C'est énorme. Le gars, il veut, comprends-tu? il veut en faire du développement économique. Puis moi, je le crois quand il dit « Je suis venu en politique. » Écoute, Fitzgibbon, là, c'est riche comme Jésus. Lui, il a pas besoin de la politique, là. Tu comprends-tu?
Mais il se fait blâmer, mais il garde sa job.
Ouais, mais justement, heureusement qu'il garde sa job. Parce que, encore une fois, je vais être cohérent avec moi-même, là. Je le suis pas toujours, là. Mais là, je vais l'être, là. On a besoin de gars comme Fitzgibbon en politique. À partir du moment où il s'en est pas mis dans les poches. À partir du moment où son chum, Laperrière, s'en est pas mis dans les poches. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ni un ni l'autre ne s'en sont mis dans les poches. Ben, moi, je continue à le défendre. Parce que ça nous en prend des gars comme ça qui, des gars puis des filles, qui sont sur le terrain. Pas un ministre dans sa tour d'ivoire, comprends-tu? Le gars, il en rencontre 3 par jour des entrepreneurs qui veulent faire des beaux projets au Québec, puis développer, puis créer des entreprises, puis agrandir, puis de... Tu sais, ça nous en prend des entrepreneurs comme ça. Puis hier, il a dit, je vais continuer. Je vais continuer à dire à ma machine, analyser tel et tel projet. Ce qui veut pas dire, a-t-il ajouté, que quand je demande à ma machine d'analyser un projet, ça veut pas dire que je recommande que le projet soit financé. Il dit ça, c'est 2 affaires différentes. Je les envoie dans ma machine, puis après ça, la machine me recommande, puis je respecte les recommandations de mes fonctionnaires. Et là, j'ai un petit message pour lui. J'ai le goût de dire, M. Fitzgibbon, allez pas trop loin dans l'autre sens. Écoutez pas tout le temps vos fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires, par moment, ils vont vous faire des recommandations qui n'ont pas d'allure. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature du fonctionnaire, Paul, des fois, pas tout le temps, mais des fois, de se couvrir là derrière. Parce que...
J'espère que tu n'essaies pas de me convaincre, là.
Pas pantoute.
Non, mais...
Non, c'est
penses-tu que Jean-François Robert se fait donner leur jeu sur l'état des écoles au Québec puis sur les systèmes de ventilation?
Mais non.
Penses-tu que Mme Mécan avait leur juste sur le report des chirurgies dans les hôpitaux pendant la première vague?
Non plus.
Tu sais, je veux dire...
Non. Puis d'ailleurs, Robert, je l'ai eu en entrevue, toi aussi. Moi, je trouve qu'il s'est ben trop étiré le cou sur l'histoire de la climatisation, puis il y avait de l'argent en
masse. Il n'y a pas de problème, tout est beau.
Hey, t'aurais dû garder une petite gêne. Mais je reviens à Fitzgibbon. Paul, c'est dans la nature de ta job de ministre, à un moment donné, que de contester la recommandation des fonctionnaires. Puis d'aller à l'encontre de la recommandation des fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires, eux autres, leur réflexe, c'est de penser au prochain rapport de la vérificatrice générale. Si jamais elle venait enquêter, ma décision, comprends-tu, je pourrais me retrouver avec un blâme de la VG qui pourrait critiquer mon travail. Garde, ça fait partie de la job. Et Fitzgibbon, par moment, tu vas être obligé d'aller à l'encontre. Puis si t'es pour rester en politique, là, ben let Fitzgibbon be Fitzgibbon. C'est-à-dire, bats-toi pour tes convictions. Si t'as un projet dans lequel tu crois, qui respecte les règles, je suis pas en train de dire que tu transgresses les règles. Non, tu respectes les règles. Il est bon le projet, les fonctionnaires trouvent qu'il est pas bon. Bats-toi pour lui. Puis à ce moment-là, ben oui, tu vas peut-être aller à l'encontre, tu vas peut-être être blâmé pour être allé à l'encontre, tu vas être critiqué par les députés d'opposition, tu vas peut-être avoir une autre demande d'enquête à la commissaire à l'éthique. Garde, si t'es pour rester en politique, reste toi-même. Si t'es pour devenir un ministre qui dit tout le temps oui à tes fonctionnaires, garde, rentre chez vous, on n'a plus besoin de toi. Mais moi, je pense que des gars comme Fitzgibbon, pis des filles comme ça, du monde qui ont de l'audace, qui arrivent du terrain, pis qui sont prêtes à faire du développement économique, moi, je trouve ça formidable. Et donc, faut le garder. Faut le garder, en autant qu'il respecte les règles, qu'il tire les leçons, qu'il apprenne de ses erreurs. Mais je veux dire, faut pas le dénaturer. Puis on a besoin de personnes comme lui en politique.
Bon, Jolin Barrette, hier, accrochage avec le Parti québécois.
Ben, avec Pascal Bérubé.
Ouais.
Bon, regarde bien. Jour du souvenir. Le PQ propose une motion pour rendre hommage au grand héros Léo Major. Léo Major, qui a libéré à lui tout seul une ville néerlandaise tenue par les nazis au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Un authentique héros. Bon. La motion proposée par le PQ, appuyée par les autres partis, rend hommage à Léo Major et demande à la commission de toponymie de nommer un lieu en sa mémoire, un lieu majeur, un lieu, un endroit important. Bon. La motion a été adoptée à l'unanimité. Très bien. Mais Jolin Barrette a refusé la demande de Pascal Bérubé de prendre la parole, que les différents partis puissent rendre hommage à Major par une courte allocution.
Pourquoi j'ai refusé?
J'arrive pas à comprendre. Je leur ai demandé. Puis j'arrive pas à comprendre. Ce qu'on me dit, c'est, garde, il y avait une motion, on a voté pour la motion, puis elle a été adoptée à l'unanimité, la motion, puis ça s'arrête là. Écoute, Paul, il y a des moments, là, où il faut mettre de côté la partisanerie. Puis il faut s'élever un petit peu. Hier, j'ai trouvé que Simon Jolin-Barrette avait manqué une belle occasion. Paul, là, des héros francophones, là,
Non, mais c'est même pas un enjeu partisan.
Non, ça ne l'est pas.
J'essaie de voir c'est quoi le problème, pourquoi il manquait de temps, il trouvait qu'il voulait aller plus vite sur d'autres affaires.
En tout cas, moi, je leur ai demandé, puis c'est pas ce qu'on m'a répondu, puis je vois pas, honnêtement, quelques minutes de plus pour rendre hommage à un gars comme Major. Puis oui, ils l'ont fait l'année passée, Legault s'est adressé à l'Assemblée, c'est vrai, là-dessus. Mais Paul, on ne célèbre pas suffisamment nos héros francophones. Hier, c'était le temps de le faire, de prendre quelques minutes. Il le mérite. Laisse faire le PQ. On s'en fout que ça vient du PQ, à rigueur. C'est pour Léo Major que tu le fais.
Mais oui.
Tu sais, tous les partis ensemble. Puis, tu sais, c'était le temps d'être nationaliste. C'était le temps d'être nationaliste hier. Tu sais, il y a un moment pour le pouvoir, pour la lutte politique, puis il y a un moment pour la grandeur d'âme et la générosité. Puis hier, j'ai trouvé que Simon Jolin-Barrette en avait manqué.
Merci, monsieur. Bonne
journée. Merci, mon cher.
Il est 7h12. Le Pompidou.